snakes. Keep me on my toes. Will you go down with me? Don't care what you say. So...
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants.
Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 12e édition des Silly d'Or de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 26 avril au théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silly d'Or d'argent et de bronze. Prenez part au Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com.
Switch off your television set immediately, unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Je me présente, votre animateur, Simon Predge, et je suis en compagnie du potineur, Olivier Bigonès.
C'est tellement random. Bonsoir, Simon.
Bonsoir. Il propage les rumeurs du village.
Ah oui, oui. Hey.
Comment tu vas, mon Olivier?
J'ai bien, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Hey, on s'excuse pour la semaine dernière, hein, on n'était pas là.
Ben non.
Regarde ça. Arrive. Oubliez pas qu'on fait ça gratuitement. Des fois, ben, ça marche pas, ça donne pas, on est surchargé. C'est pas grave, on va se reprendre cette semaine. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le spécialiste de plongée sous-marine, Marc Boisclair, d'Horreur Québec.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est ça que ça donne quand je prépare pas mes adjectifs à l'avance.
C'est pas grave.
N'importe quoi. Yes. J'ai pas d'annonce de show pour l'instant. On dirait que c'est une petite zone d'accalmie avant la tempête, parce que là, le printemps s'en vient. Première belle journée de soleil, assez hot, là. On a une belle semaine. Ça annonce un beau printemps, mais bon, hein, on est au Québec, donc dans deux semaines, on se risque de se faire chier. Une tempête, une tornade, ça va être bien le fun. Un bel été de marde, ça annonce pour nous. Ceci étant dit, moi, j'ai hâte d'avoir les petites nouvelles du village, mais les vrais de vrais qui nous intéressent. Oh yes, vous savez ce que ça veut dire? C'est la chronique! Oh yes, horreur! un jour, on va le maîtriser.
À chaque fois, je me sens comme dans un show de la fureur. Là. Ça va,
la fureur! Va embarquer, là, ah, ça en fait, je devrais prendre la chanson thème de la fureur et la refaire pour Horreur Québec.
Oh my God, non.
Horreur Québec!
Je suis pas d'accord.
Oh yes, ce soir, nous avons... OK. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'horreur en ce moment? Il y a une grosse nouvelle là, qui est sortie. Là. Je pense que c'est là-dessus que tu te lances.
Il y a plusieurs grosses nouvelles. Mm-hmm. Parce que, comme tu disais, c'est le printemps s'en vient. Les films d'été vont commencer, mais on prépare même déjà le mois d'octobre. Tout bon fan de cinéma d'horreur savent qu'il y a un prochain Halloween qui s'en vient. Mm-hmm. Le 19 octobre prochain, en salle, donc c'est excessivement attendu. C'est produit par la maison Blumhouse, qui nous donne des films d'horreur plus ou moins apprécié selon les goûts depuis plusieurs années.
Oui. J'apprécie bien Blue House. Oui, tu sais, tu peux pas toujours avoir des bons coups, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils nous offrent quelque chose d'original et d'intéressant.
Des bons divertissements. Puis ils ont eu quand même ils nous ont quand même offert Get Out récemment, qui était quand même très très bon film. Donc puis évidemment, il y a Jamie Lee Curtis qui fait son grand retour dans la série, dans le film. Celle qui avait promis de ne plus jamais faire bon. Ils ont réussi à la convaincre.
C'est toujours ça. tout le monde a son prix.
J'en fais plus. Ouais, après ça, Resurrection.
Juste une petite scène. Une ouverture.
Oui.
Puis là, ça y est, on avait un scénario béton pour convaincre la fameuse Scream Queen de revenir.
Parce qu'on parle souvent d'argent, mais c'est pas toujours l'argent. Hein. Un bon scénario peut gagner tous les acteurs.
Oui.
Même si c'est ceux qui disent plus jamais, mais c'est un bon scénario.
Mais c'est surtout qu'il y avait John Carpenter qui revient à la production. Mm-hmm. Puis, en fait, on a aussi appris récemment, officiellement, qu'il signait la trame sonore du film. Donc, c'était des rumeurs qui couraient depuis, mais on l'a annoncé pour sûr la semaine dernière. Puis, également, la semaine dernière, il y a la première affiche du film qui est sortie. Donc, à la moindre petit battement d'aile du film, c'est les grosses, grosses nouvelles sur
l'analyse,
tous les sites. Oui, exactement.
J'aime pas le masque.
Ils sont jamais contents.
Il y a ça.
Il me semble que le noir dans l'affiche est pas si noir que ça.
Il y en a qui ont comme pris l'image.
C'est là que je m'en viens. L'image, en fait, si vous l'avez vu, on voit une partie du masque de Michael Myers qui est vieilli, 40 ans. Je précise que maintenant, le masque a des rides.
Oui.
Étant donné qu'il est plus vieux.
Je me fie pas là-dessus. le masque, le masque dans le film, selon mon opinion, aura pas de rides. Je pense juste que c'est pour montrer que c'est 40 ans plus tard, Michael Myers est vieux, mais ça va être quand même le masque, pas de rides comme auparavant. Mais il y en a qui chialaient beaucoup là-dessus, comme calmez-vous, c'est un poster.
Là, c'est ça. Fait que tout le monde a son
sinon l'œil.
C'est ça, exactement. Fait que là, il y a les fans.
Ça se peut-tu qu'on s'en crisse?
Les hardcore fans.
Je sais. Mais les hardcore fans sont jamais contents. Ils seront pas plus. Même si c'est le meilleur film de l'année, ils seront quand même pas contents. Ils vont trouver des excuses pour dire oui, mais il y avait pas ça. mais fais-les le film si t'es pas content, puis c'est ça que nous passions.
Bon, là, ce qui est arrivé, c'est que les hardcore fans ont éclairci l'image à Photoshop. ça a quand même révélé un détail assez intéressant sur le film, puis dans l'affiche du film. Je suis pas sûr que c'était voulu de la part de la production. Là. En fait, on découvre que Michael Myers a seulement un œil.
Ouais.
Donc, dans son masque, en fait, on voit que son autre œil est comme fermé/slash blessé.
Ouais.
Puis si on En fait, l'idée de ce nouveau film-là, c'est que ça se passe 40 ans après le premier film, mais ça oublie tous les autres films de la franchise. Mm-hmm. Donc, le 2, le 3, blablabla, ces films-là n'existent pas dans cet univers parallèle, timeline-là, si on veut dire comme ça.
Fait que là, c'est un saut du premier à celui-là.
Exactement.
Ouais. OK.
Donc, tu sais, supposons dans H2O, Halloween 20. Tu sais, Jamie Lee Curtis, elle avait un garçon qui était interprété par Josh Arnett. Ouais. Mais là, c'est pas ça, là. Dans ce film-là, elle a une fille qui s'appelle Karen et une petite fille qui s'appelle Allison. Ces trois générations-là devront faire face à Michael Myers, le fameux boogeyman, qui revient après avoir assassiné toutes ses amies 40 ans auparavant dans le petit village de Haddonfield.
Ce que je trouve intéressant, par contre, parce que, tu sais, ça ignore le deuxième. Ce que je trouve un petit peu... C'est dans Halloween 2, finalement, que tu découvres que Jamie Lee Curtis, c'est sa sœur.
Ouais.
Donc, s'il ignore tout le restant de la série... Est-ce que c'est juste la babysitter qui a voulu tuer? Est-ce que oui, ça va être un autre? Ouais. Sa sœur ou c'est. Je suis curieux de voir comment ils vont apporter ça.
En fait, c'est aussi dans la suite où on appuie un peu plus fort sur le surnaturel alentour du personnage de Michael Myers. C'est-à-dire que, tu sais, à quel point il est invincible parce que là, à la fin du premier film, il disparaît. Là, on s'étendra pas trop sur la question. Mais les créateurs de ce nouveau film voulaient faire, c'est quelque chose d'ancré dans le très réel, dans le réaliste. Donc, c'est-à-dire Michael Myers vieillit, il peut se faire blesser, il peut se faire crever un œil, puis s'il s'est fait crever un œil il y a 40 ans, ben son œil est encore crevé aujourd'hui. Puis c'est moi ce que je trouvais quand même intéressant là-dedans, c'est cette espèce de petit souci du détail puis de continuité dans cette histoire là. Donc ils se sont un peu investis.
J'ai trouvé. Ouais, c'est intéressant. Non, mais c'est subtil, mais justement s'ils mettent le temps dans cette petite subtilité-là, ça en dit peut-être long sur ce qui s'en vient.
Ouais, exactement. Mais là, aujourd'hui, il y a une nouvelle sur...
Un petit peu moins motivante.
En fait, qui dit qu'il y aurait eu une projection test de la première coupure du film.
Oui, parce que s'il y en a qui l'ignorent, souvent ils vont faire ça avec un film très attendu, qu'ils veulent le tester. Donc, ils vont faire une projection test avec un public de gens random. Comme on montre un jury pour la cour, si on veut, un peu de monsieur, madame, tout le monde. Et à la fin, ils doivent remplir une carte critique pour donner leur impression.
Exactement.
Et selon cette première projection test, des fois, ils vont remonter ou ajuster certains trucs du film.
Exact. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que le premier film qui est monté, ben en fait le film final peut être excessivement différent. Donc
exact. Oh, donc, oui. Ça m'est arrivé de voir des films à Fantasia et que quand le film est sorti, c'était complètement un autre montage.
Fait que en temps normal, tu sais, on fait pas des nouvelles avec ça, mais là c'est Halloween, on fait des nouvelles avec ça. Puis il y a une petite controverse quand même entourant cette nouvelle là, parce que là les critiques qui ont issu de cette première projection là, les gens ont qualifié les critiques sont très mauvaises. Donc les gens ont, je vais te lire un peu des critiques qui sont sorties de là.
Ah, bon, ben oui, vas-y.
Ça situe entre correct et pourri, OK? Comme première expérience de film. Il y a une source qui a dévoilé qu'on prend trop de temps à développer certains personnages qui sont même pas utilisés dans le film. Il y a quelqu'un qui a dit « Halloween souffre d'un grand manque de continuité et est à peine lié à la franchise. » D'autres ont dit « Ce film est pour les fans d'horreur modernes qui aiment les franchises faciles comme The Purge ou Sinister. »
Celle-là, celle-là fait mal.
Puis The Purge, c'est aussi Blumhouse. Mm-hmm. Donc, on n'est pas si loin. Donc, plutôt d'essayer d'apprendre, de comprendre la complexité du personnage de Michael Myers et ses motivation à tuer, donc on aurait fait un film facile. D'autres disent qu'on a un clin d'œil aux épisodes 3, 4 et 6, mais plutôt il s'agirait plutôt de copies de scènes plutôt qu'un hommage, parce que bon, le réalisateur nous avait promis qu'il allait nous mettre des clins d'œil au film pour plaire, parce que on sait que c'est une recette qui plaît beaucoup aux fans. Ah, il y a un petit clin d'œil ou deux, un petit clin d'œil.
Mais en même temps, on va se le dire, c'est vrai que la ligne est mince entre hommage et copie. c'est deux mots différents. La même scène peut être défini de ces deux manières différentes là. C'est ça le défi là.
Ouais, effectivement.
Je pense que ça prend une certaine touche artistique particulièrement maîtrisée pour que ça transforme une copie en réel hommage.
Ouais.
Genre, qu'est-ce qui va faire que ma scène ne sera pas une simple pâle copie? Qu'est-ce que je peux utiliser pour que ce soit un beau clin d'œil sans donner l'impression que je vais juste refaire la même chose?
Ben exactement.
C'est pas évident.
Sinon, on pourrait accuser, par exemple, Quentin Tarantino de simplement plagier.
Mais en même temps, c'est juste ça qu'il fait. Lui, c'est sa carrière. Sa carrière, c'est ça. Fait que je pense qu'on peut mettre ça d'une zone à part.
C'est un autre débat.
Mais oui, là, tout à fait.
Juste pour dire, ça, c'est Horror Freak News qui a sorti cette nouvelle-là le 22 avril dernier, donc dimanche dernier. Quelques heures après, ils ont reçu un message de Universal, d'un VP de Universal directement, qui leur demandait de retirer la nouvelle parce que les participants à cette projection test-là avaient tous signé une entente de confidentialité, donc leurs commentaires n'étaient pas censés se retrouver.
Ouais.
Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ensuite, on a John Carpenter qui a réagi à la nouvelle parce qu'il s'est fait demander un des des défauts du film, c'est apparemment que la finale était pourrie.
Oui.
Complètement pourrie. Mm-hmm. Puis il s'est fait poser la question sur les réseaux sociaux, réponse à laquelle il a dit qu'il n'y avait pas de première version du film existante. Donc, il n'y avait pas pu avoir de projection test. Mais si on se souvient bien, par contre, parce que tout le monde l'a annoncé, le 13 avril dernier, donc, la semaine dernière, il y a le producteur Jason Blum qui affirmait avoir vu la première version du film et qui était excessivement satisfait du résultat. Donc
serait-tu John Carpenter qui nous ment?
Moi, ou c'est Blum? Il y en a un des deux qui ment.
C'est sûr. Puis là, j'ai l'impression qu'on aime tellement John Carpenter qu'on voudra admettre que c'est peut-être lui le menteur. Là.
Ben ouais.
Ça se peut fort bien, par contre.
Peut-être qu'on ne saura jamais, mais de toute façon...
Mais ça change rien, là, c'est ça.
C'est à vous de tirer vos propres conclusions de l'histoire.
Oh, une enquête!
Je passe à un autre sujet
rapidement. Oui, vas-y.
Est-ce que vous saviez que Lars von Trier sortait un nouveau film d'horreur?
Oui, The House That Jack Built.
Ouais, t'es au courant, oui. Mon petit Olivier. En fait, ça se trouve être un thriller horrifique / psychologique. Mm-hmm. De toute façon, on se souvient que le réalisateur nage toujours un peu dans les eaux.
Il aime ça nous troubler.
Ouais,
là.
Ouais. Je m'attends à une œuvre excessivement mélancolique. Comme chaque film que j'écoute de lui, je me sens
toujours très triste, très dramatique.
Chamboulé à la fin. Là, donc, j'ai vu la mini bande-annonce avec Matt Dillon.
Exactement. Donc, c'est Matt Dillon qui interprète Jack, un tueur en série qui est excessivement intelligent. On suit son histoire sur 12 ans, puis on suit surtout ses meurtres. C'est les meurtres qui ont aidé à faire de lui un redoutable tueur en série. Fait que je pense que ça va être très graphique, connaissant le réalisateur aussi, parce qu'il aime nous mettre les choses en pleine figure.
Rappelons-nous Antichrist.
Yeah, oui.
Exactement. Ben, puis Nymphomaniac, qui était
excessivement
graphique. Puis son film a été sélectionné à la prochaine édition de Cannes, donc qui se déroule du 8 au 19 mai prochain. Donc, on va avoir des échos.
Très bientôt.
Il
avait parlé, ouais. Je pense qu'il avait comparé Hitler. Il l'avait carrément banni. Je pense que c'est pour Melancholia qui avait passé un commentaire. Puis il avait dit, non, on veut plus de toi. Puis,
c'est ça.
Là, qu'est-ce qu'il va nous faire cette année? Tu le sais, c'est sûr qu'il va sortir quelque chose.
Mais ça, c'est très vendeur pour un festival. Tu sais, ils peuvent pas. La fois qu'il avait parlé d'Hitler, c'était partout. Là.
Oui.
Pas que Cannes a besoin de publicité, mais parlez-en bien, parlez-en mal.
Son palmarès, je ferais remarquer qu'à Cannes, lui, ses actrices, il sait diriger ses actrices, pas tout le temps facile, on s'entend. Ouais. Mais Charlotte Gainsbourg a gagné, Kirsten Dunst a gagné, Bjork a gagné, je pense Emily Mortimer, c'est ça? Celle qui joue dans Breaking the Way, ses actrices gagnent à Cannes. Donc, ça.
En tout cas, on a très hâte de voir quelle controverse il va semer cette année sur le tapis rouge.
Alors, la semaine prochaine sur Star System.
On vous en reparlera d'ailleurs. Je rewind 4 ans, il y a 4 ans à Fantasia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un film. Un film d'horreur québécois qui était projeté, qui s'appelle 10 moins ou 10 tiret.
Ouais, moi les artistes, là. Mais ouais, je l'avais manqué d'ailleurs. Je voulais le voir, je l'avais manqué.
Moi aussi, je l'ai manqué. Toi,
ça te dit-tu quelque chose, Olivier?
Non.
OK. C'est un film qui nous vient de la cinéaste québécoise Maude Michaud, qui est surtout connue dans le milieu un peu plus underground du cinéma d'horreur.
Exact.
Donc, c'était. Je ne veux pas dire n'importe quoi, je m'excuse, Maude, si t'écoutes, je pense peut-être son premier long métrage, en tout cas.
De ce que je me souviens, je crois que oui. C'était premier long métrage.
C'est ça.
C'est une fille qui a beaucoup de courts métrages à la cravate, mais si je me rappelle bien, c'était entre autres annoncé comme son premier. Mais là encore là, comme toi, peut-être que nos souvenirs sont mélangés.
Quatre ans plus tard, son film est enfin distribué. On peut maintenant.
Ça a pris du temps.
Ça peut prendre du temps. Puis des fois, ça arrive qu'on voit des films à Fantasia qu'on revoit plus jamais.
Mm-hmm. C'est vrai. J'en ai vu quelques-uns comme ça.
Oui, c'est ça. Donc maintenant, son film est disponible en vidéo sur demande à partir d'aujourd'hui même. Donc, il se retrouve sur les plateformes Bell, Shaw, Rogers et iTunes pour ceux qui consomment de la VSD. Mais sachez par contre que le distributeur l'a renommé At the Door.
At the Door.
Donc, il s'appelle maintenant At the Door. Peut-être un film...
Important de faire le lien.
Peut-être un titre un peu plus vendeur que 10 moins.
C'était pas clair comme titre.
Puis, on annonce aussi une parution DVD Blu-ray pour juin prochain. Donc, juste pour vous parler un peu du synopsis, on se retrouve à Montréal et la ville est menacée d'une étrange maladie. On suit un couple, Eva et Sam, un couple à la dérive qui sont forcés de sortir. De s'enfermer dans leur petit appartement et finalement de s'endurer
pendant que
la maladie
spread à l'extérieur.
À l'extérieur, mais peut-être aussi à l'intérieur. On a également une nouvelle bande-annonce qui a été publiée. Si vous l'avez pas vue, elle est sur le site. C'est excessivement sanglant.
Ouais. En fait, là, je me rappelais du titre. Je me rappelais d'en avoir parlé. Je me rappelais pas des images. Puis là, tu vois, pendant que tu lisais le synopsis, toutes les images me sont revenues en tête, puis je me rappelais pourquoi je voulais le voir.
C'est un film qui fait un peu écho au Thanatomorphose de
j'osais pas dire la même chose parce que je l'ai pas vu encore, celui de Maud Michaud.
Tu vas te l'apporter la prochaine fois.
Non, celui de Maud Michaud. Je l'ai pas vu encore, fait que j'osais pas faire le lien, mais moi aussi j'ai pensé à Thanatomorphose de Éric Falardeau qu'on a eu en plus il y a pas longtemps.
C'est surtout que la cinéaste nous avise que c'est un film très lent, c'est un slow burner.
Ouais.
Elle a elle-même commenté ça un peu plus tôt sur la page. Si vous attendez un gore fest, vous allez peut-être être déçu, mais si vous êtes genre
slow burner, il y en a des intéressants.
En fait, je trouve ça dommage
même quand des fans de gore d'action délaissent ces films-là. Il faut leur donner une chance parce que des fois, vous les aimerez pas toutes. Là. Moi non plus, je les aime pas toutes. Mais de temps en temps, on fait des belles découvertes comme ça. Faut pas repousser un film parce que c'est sa description ne vous accroche pas. Des fois, on a fait des belles découvertes. Là.
Ou s'il y a un look un peu moins Hollywood.
C'est ça.
Faut avoir un peu l'esprit ouvert.
Faut oser.
Ouais. J'en profite également pour dire, vous savez qu'il n'y a pas de copie physique qui existe du film Les Affamés au Québec. Puis qu'il n'y en aura pas non plus. Je pense qu'on
c'est
en avait...
C'est officiel?
Ça, c'est officiel.
Surprenant.
C'est pas unique aux Affamés. Ça va arriver de plus en plus pour les productions.
Ouais, c'est vrai qu'on est rendu là. T'as raison.
Ouais, c'est ça. Écoute, je pense pas qu'il y ait de format physique pour La Petite Fille qui aimait trop les allumettes.
Non, ça aussi, c'est officiel.
Donc,
c'est vrai.
Tu sais, c'est pas unique. C'est pas parce que c'est un film d'horreur. C'est pas parce que c'est un film de zombies. C'est parce que c'est un format qui est... le Québec, c'est un petit milieu. C'est un format qui vend de moins en moins.
Les seuls qui achètent encore beaucoup, c'est les collectionneurs.
Exactement. Puis là, la grosse controverse, c'était que Les Affamés se retrouvaient sur Netflix USA uniquement et pas Canada.
Ça, c'est weird aussi.
Mais il faut comprendre qu'on a un distributeur qui a un film à vendre au Canada parce que le film est disponible en vidéo sur demande quand même. Vous pouvez le louer, vous pouvez l'acheter en format digital.
Anyway, ceux qui sortent jamais de Netflix, là...
Ouais.
On vous inviterait à ne plus écouter les oublier, s'il vous plaît, là. Hein?
Vous manquez des choses.
Il manquait beaucoup de choses.
Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant ici pour les collectionneurs qui sont équipés de lecteurs multizones. Je sais qu'il y en a sûrement dans... Toi, t'as sûrement un lecteur multizone parce que t'as plein de raretés.
T'as plein de shit.
T'as plein de shit. On donnera pas son adresse, mais... Le film sortait aujourd'hui en Blu-ray en Espagne. Si vous allez sur Amazon, zones.es, c'est possible d'acheter le film, puis vous allez le recevoir chez vous,
ça prend un lecteur
spécial pour...
Ou sur l'ordinateur. Les gens qui vont regarder leur film, des fois, sont un setup avec ordinateur. Oui. Les ordinateurs peuvent le lire.
Ah, peut-être pas tous. C'est mieux de vérifier.
Moi, j'ai jamais eu de problème.
Ah ouais, OK. Je savais pas.
Je dis ça, tu me fais douter, mais moi, j'ai jamais eu de problème.
Il y a quelque chose d'intéressant parce que le film a aussi... Il y a eu une promotion autour du film en Espagne parce que le film a eu une sortie en salle là-bas. Puis je voulais juste vous lire le tagline espagnol du film. Du film qui s'appelle Los Hambrientos en Espagne. Là, c'est traduit en anglais, là, parce que je vous le lirai pas en espagnol, évidemment. Le tagline du film, c'est In rural Quebec, nobody can hear you scream. Je trouve ça vraiment drôle parce que ça, ben évidemment,
ce qui est le fun là, c'est que c'est vrai, mais pas pour les raisons qu'ils pensent. C'est qu'on est trop égoïste pour appeler la police si on entend quelqu'un crier à l'aide. C'est ça qui est la beauté de la chose. Et d'ailleurs, dans deux épisodes d'Ars Moriendi, c'est justement le sujet. Mais j'en dis pas plus.
Ah ouais, cool.
Les témoins qui font rien là.
Okay.
J'en dis pas plus.
On a une autre grosse nouvelle cette semaine, dans les derniers jours en fait. C'est Bruce Campbell qui prend sa retraite de Ash, son personnage iconique de Evil Dead.
Ça a sorti hier, je pense.
On en parlait. En fait, ce qui est arrivé, c'est que la semaine dernière, il y a le réseau Starz qui est présentement en train de diffuser la troisième saison de Ash versus Evil Dead. Je sais pas si vous avez écouté les deux premières.
La première saison, puis la deuxième, à un moment donné. Là. J'avais bien aimé la première, j'avais trouvé ça le fun, j'avais trouvé ça drôle. Un moment donné.
Moi, j'ai trouvé la deuxième encore plus savoureuse que la première.
Okay. C'est ce que j'ai entendu beaucoup, moi aussi.
J'ai trouvé que ça appuyait encore plus fort, puis c'était encore plus gras. Puis il y en a qui ont reproché ça. Moi, c'est ce que. Moi, j'ai beaucoup ri. Les deux sont sur Netflix. On parlait de Netflix tantôt. Si vous les avez pas vus.
Oui, de toute façon, tu peux pas chialer contre ça. On va se le dire. La série Evil Dead, c'est du burlesque, là.
Ouais.
C'est du burlesque avec du sang.
Ben oui.
Fait que tu sais, tu peux pas reprocher qu'il joue gros, c'est ça le concept.
Ouais.
Mais je comprends. Mais ouais.
Starz ont annoncé que la série ne reviendrait pas pour une quatrième saison, donc tout le monde était très triste.
Vrai que c'est étrange. J'ai vu, vous l'avez peut-être vu passer aussi, du monde qui ont montré les statistiques de visionnement comparé à Walking Dead. Walking Dead, à partir de la quatrième saison, c'est une chute libre et pourtant ils continuent d'en produire, tandis que la ligne de Evil Dead est stable entre 92 et 96%, puis pourtant ils l'ont coupé. Fait que ça, c'est un des arguments que j'ai vu passer sur Facebook, qui, parce que les gens s'expliquent pas que ça revient pas, tu sais. On le sait-tu pourquoi ça revient pas? Moi, c'est le scénario, des fois c'est le budget.
Moi, ce que j'ai lu, c'est que les codes d'écoute de la troisième saison étaient particulièrement désastreuses. Évidemment, ils en disent pas. Puis si t'as vu le contraire, c'est aussi possible là, avec la.
J'ai vu ça. Attends, là, j'ai vu ça d'une place super fiable, Internet.
Ouais, c'est ça.
Fait que tu sais, faut en prendre et en laisser. Tu sais, des deux côtés, faut en prendre puis en laisser. Donc, tant qu'on fait pas nos propres recherches, on le sait pas.
Ouais,
là.
C'est vrai.
Mais c'est toujours ça qui joue en bout de ligne, tu sais.
Ben oui. Tout ça pour dire que les raisons exactes ne sont jamais clairement annoncées par le diffuseur, évidemment. Mais les fans avaient quand même deux façons d'espérer peut-être revoir le personnage, parce que Bruce Campbell avait mentionné que si la série revenait pas, il allait travailler sur un nouveau film. Ça, c'était la première option. Sinon, il y a toujours Netflix, des fois, qui rachète. C'est arrivé avec... Black Mirror. Exact. J'avais Black Christmas dans ta tête. Black Mirror, ils l'ont reprise. Puis, c'est devenu un succès. Donc, c'était aussi une possibilité. Ça, c'est... Tout le monde prétendait ça. Puis Bloody Disgusting en ont fait... qui est un site américain, en ont fait un billet en mentionnant Bruce Campbell sur Twitter. Billet auquel Bruce Campbell a répondu qu'il prenait officiellement sa retraite de Ash.
Donc, je me demande s'il n'y a pas eu de la chicane. Pourquoi il arrêterait du jour au lendemain, sinon?
Moi, je dis qu'on attend. Ça va sortir à un moment donné. C'est tout récent. C'est sûr qu'on va savoir à un moment donné.
Peut-être.
Ben, en fait, il a répondu ça. Puis, l'autre nouvelle à laquelle tu fais référence, c'est que hier ou un peu plus tôt dans la journée aujourd'hui, il a émis un autre communiqué slash sur Twitter, un peu plus exhaustif qu'une phrase, pour dire aux fans merci pour leur soutien, pour remercier, pour dire que. Oui, il avait fait le tour, mais qui était quand même excessivement heureux d'avoir pu faire renaître pendant trois saisons, ce qui est quand même assez exceptionnel. L'univers
Parce qu'on n'aurait jamais vu ça des années 90. Là.
Non, puis Non, c'est ça. Puis moi, je
on est chanceux, là.
Ça aurait pu s'arrêter après une saison.
Ben oui.
Puis, donc,
c'est sûr qu'on en veut toujours plus, c'est normal. Puis les fans qui continuent à le suivre, c'est normal qu'ils soient déçus. Mais en même temps,
en effet,
faut pas oublier qu'on est très chanceux d'avoir ça.
Mais Bruce Campbell aime créer la nouvelle, aime faire jaser.
Il est très bon dans le marketing.
C'est un producteur aussi.
Ben oui.
C'est pas juste un acteur, il est producteur sur la série. Puis donc, il parle beaucoup, puis il aime les annonces. Peut-être que...
On sait jamais. Dossier à suivre. Alors, on va prendre une petite pause musicale. Merci beaucoup, Marc, pour les nouvelles. On va se revoir bientôt.
Ben oui.
On va se quitter justement avec... Ben, se quitter. Prendre une pause avec ta suggestion. Une très bonne suggestion qui va de soi. La chanson de Halloween. John Carpenter's Halloween interprétée qui est sortie, en fait, il y a quoi, l'année dernière?
L'année dernière, je pense? Pour la tournée de John Carpenter.
Mm-hmm. Exactement. Par Trent Reznor et Atticus Ross. On vous revient tout de suite après.
From tiny hamlet to the big cities, the critics are raving about Blazing Stewardesses. And here's what they're saying. Blazing Stewardesses outblazes Blazing Saddles. It's a mad, 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 mad world of sheer lunacy and complete insanity.
Dunhall!
And the thunderous acclaim grows and grows and grows. Blazing Stewardesses out Panthers Pink Panther. Blazing Stewardesses out sexes everything you wanted to know about sex.
Dunhall!
And still the applause mounts until it is a crescendo of joy, an overwhelming accolade of spontaneous acclaim. Blazing Stewardesses is all that and more, more, more. If you see one picture this year, make it Blazing Stewardesses. Rated R. Under 17, not admitted without parent.
Please, don't holler.
From Independent International.
Bon, chers auditeurs, aujourd'hui, est-ce qu'on se fait un petit film de femmes psychotiques?
Ah oui, on aime ça, les films. Les films de femmes. Oh, oh, oh! C'est excitant. Oh, oh!
Donc, il me fait plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui pour plusieurs.
Moi, je le découvre, en tout cas. Je le connais
film,
pas, ça.
Le film s'appelle Symptoms, aussi connu sous les symptômes. Blood Virgin, Symptomas et Symptoms l'incubio de Sensi. 1974.
Si vous aviez vu sa gueule pendant qu'il faisait ça, c'était de toute beauté.
Je me suis pratiqué. Donc, c'est un film britannique réalisé par José Ramón Larraz. Est-ce que vous vous souvenez de lui, mes chers auditeurs?
Je me souviens t'avoir dit ce nom-là, mais je me souviens pas c'est qui.
Et lui, c'est un réalisateur espagnol dont j'avais fait la critique du très satanique Black Candles.
Ah, c'est ça. Je me souviens de ça.
Avec la soundtrack et... excellent dans ce film-là. Donc, que j'ai fait il y a quelques années. Je pense que, mon Dieu,
ça fait pas si longtemps.
À peu près deux ans.
Oui.
Donc, Il y a quand même une filmographie qui est quand même très intéressante et je crois même, je vous avais promis en faisant Black Candles un jour que je ferais la critique de du fameux Symptoms. Today is the day. Donc le film était écrit par La Raze et co-écrit par Stanley Miller, lui qui était un scénariste de plusieurs téléséries britanniques telles la série anthologique Journey to the Unknown à la fin des années 60, Sherlock Holmes, The Devil in the Fog. Donc bref, ce film-là, c'est une adaptation d'une histoire du Belge Thomas Owen qui a écrit plusieurs nouvelles traitant de fiction et de fantasy. Pour les amateurs de La Raze, que je pense que je vais me lancer dans sa filmographie comme solide, assez comme du monde, parce que j'ai aimé moi Black Candles quand j'étais jeune, tu sais, c'est des films érotiques, sataniques, Symptoms, puis écoute, il a fait d'autres films que tu connais probablement, il a fait The Edge of the Axe. Tu te souviens-tu le poster?
J'ai la VHS chez moi. C'est lui qui a fait ça.
Deadly Manor, mais
il y a pas de Possessed?
Non.
C'est quoi l'autre titre de The Possessed?
C'est Jesus Franco, me semble, qui a fait ça.
Ouais.
On recheckera.
Ouais.
Mais tu sais, au début de sa carrière, il a fait des petits films érotiques. Il a fait Vampires avec un
Vampire.
Y là dedans. Là.
Oh, une fois différent.
Donc, une des actrices qui joue là-dedans, qui jouait dans notre fameux un de mes préférés, puis je pense que t'aimes beaucoup, La Maison Sanglante, Alien Prey de Warren.
Je l'aime moins que toi.
Ah, moi, j'ai grandi avec.
Mais moi, en fait, je vais même être honnête. Ce qui me fascine de ce film-là, c'est ta fascination pour le film.
Ah, c'est nostalgie, peut-être. Peut-être que.
Mais j'ai hâte que tu m'en parles, mais parce que j'ai hâte de comprendre.
On se fait un Warren à un moment donné. Ouais. Là, on est dit, on fait Alien Prey, puis on fera The Terror. On a fait un Seminoid. On se lance sur ça à un moment donné.
Mais en même temps, je te le dis tout de suite, là, notre horaire, il est jam-pack pour un petit bout avec des chroniqueurs invités.
On a le temps. Donc, la soundtrack, en passant, ben, c'est pas celle qu'on entend présentement.
Excuse-moi, je te coupe. The Possessed, finalement, c'est Amando de Osorio.
De Osorio. Excuse-moi. La trame sonore qui est excellente pour ce film, qui est faite par John Scott, qui a fait Inseminoid de Warren, G. Warren. Sinon, le cast ici, on a Angela Pleasance dans le rôle de Ellen Ramsey, qui a joué dans Hitler The Last 10 Days en 73, The Godsend en 1980, qui est un film préféré des fans d'horreur.
On l'aime bien.
Elle a eu des petits rôles dans des blockbusters comme Your Highness en 2011 avec Natalie Portman. C'est la fille de Donald Pleasance. Et la ressemblante est troublante. Elle ressemble à son père, pas à peu près.
Tu me fais penser avec The Highness, qui m'a fait penser à l'anus. Aujourd'hui, on a appris que la planète Uranus avait un parfum de pète. Et comme en anglais, Uranus se dit Your Anus, je trouve ça très drôle. C'est tout. Je voulais juste faire une petite parenthèse scientifique.
Pertinent. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Je suis toujours là pour ça.
Donc, on a Peter Von Vaughan dans le rôle de Brady, qui a joué dans Straw Dogs en 1975.
Ouais, on leur place.
The Bandits 1981. Brazil. En 1985 de Gillian et Game of Thrones. On a Lorna L. Brown dans le rôle d'Anne, qui joue dans The Creeping Flesh, Christopher Lee en 73, The Girl in a Swing en 1988, que je ne connais pas. On a Nancy Levinson dans le rôle d'Anna, qui a joué dans Ring of Spies en 73, puis Rays of the Titanic en 1980. Sinon, on a Marie-Paul Mailleux dans le rôle de Cora, qui a joué dans Brigade d'Antisex en 1970. Mike Grady dans le rôle de Nick, la télésérie Citizen Smith, Last of the Summer's Wine, et finalement on a Raymond Huntley dans le rôle de Burke, qui a Night Train to Munich, classique Oscar 1940, The House in the Square en 1951. Donc le synopsis, c'est l'histoire de Helen, qui est une jeune femme fragile, troublée, va passer le week-end week-end avec sa copine Anne dans le countryside anglais, dans un immense manoir appartenant à sa famille. À leur arrivée, Hélène semble perturbée par quelque chose. Elle semble entendre des voix, des sons greniers de sa chambre qui ne sont que perceptibles que par elle, finalement. Elle trouve refuge dans son journal intime. Anne semble aussi entendre des ricanements la nuit, des murmures provenant de la chambre d'Hélène, mais n'y porte pas trop attention au départ. Et qui est cette mystérieuse Cora, cette femme qu'Anne retrouve sur des photos qui surblombent les murs du manoir?
T'es sûr que c'est pas un Cora déjeuner? Elle aussi a des photos de déjeuner sur les murs. Là.
Pertinence! toutes deux profitent du décor bucolique entourant la propriété, se promenant sur le petit étang barque au milieu de la forêt. Elles croiseront sur leur randonnée Brady, un vieux bûcheron et caretaker de la propriété qu'Hélène semble détester. Il la rend inconfortable. Donc, Hélène sent que quelque chose la guette dans la forêt. Dès qu'elle a une chance de se retrouver seule par la fenêtre de sa chambre, elle épie les lieux à l'aide de jumelles. Anne trouve le comportement d'Hélène de plus en plus inquiétant. Celle-ci, si fragile, semble perdre la raison. Incapable de la laisser, vu son état, elle décide de demeurer au manoir quelques jours de plus, question de veiller sur elle, mais pour n'être que sauvagement assassinée par un mystérieux inconnu durant la nuit au grenier. Donc, Hélène semble de plus en plus déconnectée de la réalité. Brady semble de plus en plus suspicieux sur celle-ci. Une question qui lui brûle la langue, qu'est-il arrivé à Cora, l'ancienne amie qui l'avait accompagnée l'été précédent au manoir? Est-ce qu'Hélène, si fragile, est en train de perdre complètement la tête? Est-ce qu'elle est l'auteur de ces crimes-là? Ou bien est-ce que quelqu'un qui revient des morts exécute une vengeance? Donc,
OK, mais ça pique ma curiosité.
Ce film-là, qui était présenté, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui était présenté à Cannes en mai 1974, en grande première, comme étant le premier film britannique qui faisait son entrée durant cette année-là, étant nominé pour la Palme d'Or.
Quand même.
Donc, le film fut ensuite présenté dans quelques salles en France et aux États-Unis en 1976. Donc, ce petit bijou-là a complètement disparu de la map ensuite. Les négatifs ont disparu. Il y a eu, en 1983, une présentation sur la télévision britannique. Aucune VHS ou DVD, sauf quelques bootlegs.
Ah ouais.
Seulement quelques présentations rares à la télévision. Donc, c'est Gene Seberg qui a... À bout de souffle en 1960 là, de Godard, était censé interpréter Ellen, mais n'a pu être engagée vu le fait qu'elle ne faisait pas partie du AEA, l'Actors Equity Association.
Ah ouais, okay.
Donc, les négatifs ont été retrouvés en 2014 pour ensuite être restaurés par la compagnie de distribution qu'on aime beaucoup, Mondo Macabro.
Ah ouais, cool.
Et nous en sommes très reconnaissants, j'en suis... très reconnaissant. Et il a fait partie de la BFI, la British Film Institute, qui date de 1933.
À peu près.
Une compagnie qui a fait la promotion et préservation de films. Mm-hmm. Donc, et celui-ci, longtemps, fut pendant des dizaines d'années confirmé comme étant un des plus rares. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un film que beaucoup de gens ont vu. Mais présentement, là, vu que le Blu-ray est sorti, lancez-vous là-dessus. Vous allez voir pourquoi. La Raz ici, crédité sous le pseudonyme de Joseph La Raz pour cette production, c'est un film avec des acteurs britanniques. Bon, il voulait se donner...
Pour l'international.
Exactement. Donc, avait utilisé toutes ses économies en tant que BDiste pour mettre à jour son film. Donc, la comparaison entre le classique Répulsion de Roman Polanski est frappante. Donc... c'est inévitable, ok, c'est indéniable, un parallèle, vous allez voir, donc j'y reviendrai. Donc, la descente aux enfers, à la folie qu'on a pu voir dans multiples œuvres cinématographiques bien exécutées au niveau de la femme psychotique, dont un de nos films préférés de tous les temps, toi et moi, Simon, Possession,
oui.
De Zulawski, 1981, entre autres.
Clairement dans mon top. Si pas top 10, top,
moi,
top 20
top
à vie.
10, c'est...
J'ai le goût de le mettre dans le top 10, mais je suis jamais capable de choisir.
Ça, c'est un jour, là, Simon, on se fera une chronique d'une heure, toi pis moi, puis on parlera de ce film-là.
Il faudrait.
La Possession,
hein.
C'est...
J'en avais parlé dans le temps de Vidéo Nasties, mais j'étais encore nouveau dans le milieu.
On rendra une analyse toute différente aujourd'hui. À Possession, le film le mérite.
Ben oui.
Donc, oui, si on a droit à un film d'horreur psychologique, psychosexuel, donc, moi, c'est des films comme les aime, OK?
Mais c'est
les
sexualités ambiguës, bon.
Le problème mental, surtout au niveau de la femme. Je suis un gars qui aime les actrices dans le cinéma, surtout. Donc, les femmes psychotiques. Donc, un de mes sous-genres préférés de tous les temps. C'est un slow burner, comme on a discuté tout à l'heure. Moi,
ah oui,
j'aime
mais
ça. C'est
attends.
Bien fait.
OK, bon, c'est bon, excuse-moi. Rien.
Mais c'est très
mon
bien exécuté. Il y a un mystère, c'est long avant qu'il y ait un meurtre, mais quand que ça arrive, ça fait... C'est très agressif. Je dis pas que c'est du gore. C'est très agressif quand il y a un meurtre dans ce film-là. Donc, bien exécuté. Comparativement à ce que Laurence a pu faire ensuite au courant de sa carrière, si on parle de voyons, Colin, j'ai vu tout à l'heure. C'est aussi, je suis sûr que t'as ça dans ta collection, Simon. Deadly Manor.
Ouais.
Je le referai cela à un moment donné. Il est allé dans le commercial un petit peu plus facile, The Edge of the Axe, tout ça. Au courant de sa carrière, on voit ce qu'il fait. On voit qu'ici, il y a vraiment, au lieu de tomber dans du straight-up horror, si on veut, il est plus tombé... Vous dites, dans ce genre d'horreur, comme le cinéma d'exploitation, sexploitation et slasher, ici, on a une œuvre qui est beaucoup plus intelligente, songée, soignée, qui traite de maladies mentales. Donc, supposément que c'était un enfer tourné, le film pour les deux actrices principales. Donc, je crois que Anne fréquentait Laraz à ce moment-là. Laraz aurait été très, très, très exigeant avec les deux actrices sur le plateau de tournage. J'ai pas tout vu ses films, mais je suis pas mal certain que celui-là, c'est son masterpiece. Donc, si on vient surtout au niveau des actrices, moi, j'ai trouvé vraiment, l'écoute, c'est pas une actrice avec laquelle j'étais, Angela Pleasant, que j'étais hyper familier. Hyper fragile. Anne, qui est là comme sa meilleure amie, qu'elle supporte, il y a vraiment une tension, une espèce de tension sexuelle entre les deux, une attirance, je vous dirais, là, envers Helen, Angela Pleasant, envers son amie. Tellement délicate, c'est son corps dans l'espace, si on veut, dans son espace, j'appelle vraiment le manoir. Même quand je vous ai pas donné un punch, mais comme quand Anne se fait tuer, c'est long, là. C'est peut-être 45 minutes dans le film. T'es sûr que. Là, tu changes ton fusil d'épaule. T'es comme, OK, je regarde pas un film où un espèce de slasher, quoi que ce soit. Et toute la psychologie, une fois qu'elle est morte, puis qu'elle est là, puis qu'elle la voit, elle lui parle chaque jour. Puis on tombe vraiment dans sa folie à elle. Et on se fait douter. Est-ce qu'elle hallucine? Est-ce que Cora qui a disparu, est-ce que c'est elle, l'auteur des meurtres, parce qu'elle a des visions? C'est super bien amené. Puis je trouve, pour un film de 1974, tu ressors ce film-là aujourd'hui, ça passe. C'est très intelligent, c'est bien amené, bien exécuté, je le recommande fortement. Symptoms, payez-vous le Blu-ray, le transfert est sublime.
Oh ben, si vous êtes pauvre, il est en entier sur le blog.
De fans de films de fans psychotiques, fortement recommandé celui-là, vraiment.
Nice. Ben, merci, Olivier. Moi, j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, moi aussi, j'aime bien ça, les femmes psychotiques. Nice. Bien. Si vous n'avez pas la patience d'attendre un Blu-ray par la poste, vous pouvez toujours visiter le blog au www.lesoubliettes.ca. Il se trouve là en entier. On va prendre une petite pause musicale. Merci beaucoup, Olivier. On va aller écouter une chanson que j'ai redécouvert parce que là, ce groupe-là sort un nouvel album là. Puis, je dis pas, il y a juste une toune de sortie, très bonne, mais moi, mon cœur est à la toune que j'ai choisie aujourd'hui. c'est un groupe de Montréal, des vagues connaissances, là. Ça s'appelle, je sais que ça sonne bizarre, puis j'ai jamais compris le nom non plus, mais le groupe s'appelle Jésus les filles, en un mot, sont très hot. Si vous avez la chance de voir Jésus les filles live, sautez là-dessus, c'est vraiment une belle gang. comme ils sortent un album, ils vont sûrement faire une petite tournée, donc profitez-en, je vous les suggère fortement. On va écouter, moi, mon coup de cœur personnel de ce groupe-là, c'est-à-dire la toune des Beatles, qui date d'un vieil album, mais bon, la toune s'appelle la toune des Beatles, là, faites pas le saut, mais ça date d'un vieil album, là, il y a beaucoup de stock qui est sorti depuis, mais j'ai beaucoup de misère à décrocher de cette toune-là, je l'écoutais toute la semaine. On vous revient tout de suite après avec la VHS insolite, aux oubliettes sur choc.ca. Yes, c'est l'heure de la VHS insolite. J'ai l'impression que ça fait un mois que je vous ai pas fait une petite VHS insolite. Et j'en ai trouvé une belle cette semaine. Je vous offre une VHS de Dee Grunig. Puis là, qui est Dee Grunig? C'est une femme qui a quitté sa carrière d'enseignante à l'école publique quand elle a découvert la peinture avec des éponges de caoutchouc en 1979. Puis là, okay. Tu sais de qui je parle.
La Sponge Lady.
Oh yeah! Oh yeah!
OK, on a...
Oh
my God.
Laisse-moi te dire. OK. OK, donc elle découvre la peinture avec des éponges en caoutchouc en 79 et elle a ensuite ouvert une boutique cadeau en Californie, à Laguna Niguel, puis qui aurait supposément gagné des prix là, je savais pas qu'une boutique pouvait gagner des prix là, mais bon, hein, les Américains aiment bien ça se dire qu'ils sont bien bons. Puis là, elle a lancé finalement sa compagnie pour fabriquer des éponges en caoutchouc, ça s'appelle Posh Impressions.
Oui.
Pour éventuellement ouvrir jusqu'à 6 boutiques d'éponges et produits dérivés d'artistes. Je sais que c'est pas clair, vous allez comprendre le concept. En 15 ans, elle a produit une dizaine de vidéos et de DVD et aussi écrit et coécrit 10 livres, dont le best-seller du Book of the Month Club en 96, le grand livre des étampes en éponge. C'est le titre traduit, là. Elle en a vendu, attention, 232 000 copies.
Oh, quand même.
Et c'est le livre d'artisanat le plus vendu de l'année à sa sortie. Aujourd'hui, Costco a racheté le livre et le vend sous forme de kit de départ de peinture avec des éponges. Elle a même été invitée dans plusieurs émissions de télé de variété pour parler de son artisanat. Elle a travaillé conjointement avec de nombreuses compagnies d'articles pour artistes comme designer. Bref, une célébrité dans son milieu, l'artisanat. Elle a voyagé jusqu'en Angleterre, jusqu'en Corée du Sud et en Allemagne aux frais de l'armée américaine pour enseigner les étampes en éponge aux militaires. Je ne sais pas pourquoi. Et le milieu de l'artisanat a financé sa conférence qu'elle a présentée au Japon pour leur enseigner, ben oui, comment peindre avec des étampes en éponge de caoutchouc. Pour une foule de 100 000 personnes. What the fuck? C'est à se demander, c'est qui les pires, Dee Grunig ou les milliers de personnes qui se déplacent pour la voir peindre des couleurs avec une éponge? Anyway, Ceci étant dit, en gros, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la fabuleuse, la plus fabuleuse de ces VHS, Rainbow Sponge. Moi, on dit que j'allume ce cassette-là, ça n'a pas de bon sens.
Oh my God.
OK, elle nous enseigne donc ses trucs et techniques pour peindre avec ses maudites étampes en rubber. En gros, elle met de l'encre de différentes couleurs sur l'éponge, puis elle peint des lignes funky avec l'éponge. Là, t'sais. On est d'acté. Ouais. Elle peint pas des toiles, là. Elle fait des du papier peint, des motifs.
Elle est full énervée quand elle fait contente.
Ben, je vois ça, c'est sur le blog.
Ah, va voir Sponge Lady sur YouTube.
On va entendre un extrait. Là,
on
est d'accord que c'est déjà vraiment veg et absurde. Toutefois, la magie ne passe pas tant par ces arcs-en-ciel artisanaux, mais plutôt dans l'enthousiasme Dee Grunig. Sa passion prend une tournure un peu exagérée, je dirais presque sexuelle.
Oui.
Ah, oh, puis je l'assume. Hein, peindre avec des éponges semble orgasmique.
Oui.
Mais comme l'entendre, c'est le comprendre. Voici les meilleurs moments de Rainbow Sponge. Là, bien sûr, elle parle un peu, là, mais laissez-vous submerger par la peinture.
On ferme nos yeux.
You asked for it. A whole video devoted to the Rainbow Sponge. The Army Arts and Crafts Department sent me to Korea. Now, not a normal sponge. This is so dense. Three sizes because I can't stand just one size. Another thing that I want to talk about is the hygiene of the sponge. I squeezed and squeezed and squeezed and squeezed. No flab on this arm for my cleaning. Flab on this arm. Now, if you do get it on your hands, gloves are incredible. I have a pure, I love a sponge that is absolutely pure. Oops, a virgin edge. Oh my gosh. I am sorry. Oh, I want you to look at all of those wiggles. Oh my gosh. Wiggles. Oh my gosh. I love to wiggle the whole thing. There are many other surfaces that you can sponge on. I'm going to show you wood. Of course you can go straight. Oh my gosh. I love this. Are they incredible or what? Okay, calm down, Dee. And it's done. Yes. Do you see that? Earth tone. Look at that. Is this fun or what? Look at that. On a card. Ah! Breathing heavy. Oh. Ah. Yes. Yes. Let's stamp it out. Oh my gosh. Now, think. Go this way. And now we zigzag. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Look at that tie. Okay. And then there.
And then,
oh my gosh, ça a pas de bon sens. Au moins, je te jure, Simon, là, au moins une fois par mois sur YouTube depuis 5 ans, je te le dis.
Oh my God.
Regarde ça, là, est vraiment là.
C'est incroyable.
Oh my God, ouais, là.
C'est incroyable.
Ah ouais, c'est sponge.
On en a rien à chier des éponges à peinture.
Elle
est fabuleuse à regarder. Ah vraiment le fun. Ça s'est promené beaucoup aux États-Unis aussi, là. Ça a été viral un petit bout de temps. Mais la vidéo en entier, c'est toujours plus intéressant, je trouve, dans mon optique à moi. Quand t'as le temps de le faire, c'est le fun de regarder dans son entier, puis pas juste avoir le montage de je sais pas qui chez eux, là.
Ouais.
Ça vaut la peine. C'est une petite vidéo de 30 minutes. C'est très divertissant, d'une drôle de manière. On peut pas ne pas rire devant les exclamations de Dee. Même elle dit à un moment donné dans le best qu'on vient d'entendre, là, oh my God, calme-toi, Dee. Calme-toi. Bref, si vous avez des vieilles éponges qui traînent chez vous, apprenez comment designer vos propres cartes de souhait avec la vidéo Rainbow Sponge. Elle est donc disponible en entier sur le blog. Je vous invite à découvrir ça. On va en rire une shot. Sur ce, c'est déjà la fin? Est-ce déjà la fin? Mon Dieu, c'est déjà la fin! Mais quelle aventure ça a été, les amis! Voyons!
Dee sort de ce corps.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh my God.
Excusez, je sais pas ce que j'ai. C'est Dee qui me met dans tous mes états.
Ça doit être ça.
C'est les mots aux éponges en caoutchouc.
Ouais.
C'est sûr que je cours au amer de serre à côté du studio, puis je m'en vais m'acheter des éponges en caoutchouc. Sur ce, Merci, messieurs. Merci. On continue de suivre le blog Horreur Québec. Merci pour les petites nouvelles, merci. Marc. On se revoit dans un mois.
Oui.
Et Olivier, merci pour cette belle découverte. Justement, c'est le type de film que j'aime qu'on ressorte aux oubliettes. On va se le dire. Moi, j'avais le goût de raconter des histoires, mais si je suis venu te chercher, c'est parce que j'avais envie que tu m'en fasses découvrir, et c'est exactement ce que tu as fait une fois de plus.
Good.
Tu réussis toujours à trouver quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Je commence à être jaloux.
Bon.
Les gens vont passer que j'ai rien vu à la maison. Qu'est-ce que ça sort? Sur ce, hey, merci beaucoup, cher auditeur. On se revoit la semaine prochaine pour une autre aventure. Les oubliettes au monde merveilleux des éponges en caoutchouc. On se quitte sur une chanson des Hives que j'adore, Main Offender, et à la semaine prochaine.